Ok, donc on démarre à chapitre 2, Mishnah 7, page 14. Alors, on a avant de commencer cette Mishnah, une petite introduction. C'est enseigné dans la Gemara Yevamot. C'est enseigné que Akol Nemanim Le'Aïda. Tout le monde peut témoigner à une femme sur la mort de son mari, Dieu préserve. Puisque là, l'Alacha est, d'accord, que on permet une femme de se remarier même s'il y a un seul témoin qui témoigne de la mort du mari. Par exemple, dans le cas qui s'est passé avec l'avion, s'il y avait même un seul témoin qui était capable de témoigner, qui dit « Oui, je l'ai vu et je sais qu'il est mort », c'est fini, la femme peut se remarier, même un témoin. Peu importe qui il est, etc. Tout le monde, on fait confiance à tout le monde. Sauf quelques personnes, qu'on va citer tout de suite. Sauf quelques personnes, dit la Gemara Yevamot. On ne fait pas confiance à la belle-mère. On ne fait pas confiance à la fille de la belle-mère. D'accord ? On ne fait pas confiance on fait pas confiance non plus à la deuxième femme, d'accord? Ça veut dire si quelqu'un s'est marié avec deux femmes, on fait pas confiance à la deuxième femme. On fait pas confiance à la fille de son mari qui n'est pas sa fille, c'est-à-dire qui habite avec elle mais qui n'est pas sa fille. On fait pas confiance également à Yevimta, d'accord? Yevimta, ça veut dire la femme qui est Yebama, qui s'est mariée avec elle. Pourquoi? Parce que c'est cinq femmes qu'on va citer tout de suite, c'est cinq femmes. On considère que c'est cinq femmes qui n'aiment pas la femme, et qui sont capables de lui raconter. La belle-mère, par exemple, elle n'aime pas la belle-fille.
Belle-fille, tu veux dire.
Oui, elle va lui dire « ton mari est mort, donc son fils ».
Donc c'est pas des bêtises qu'on dit. Hein.
C'est sûr, c'est pas des bêtises. La belle-mère. Donc c'est pour ça qu'on lui fait pas confiance. Et notre Mishnah va nous apprendre que c'est valable non seulement pour témoigner que... Donc elles ne peuvent pas témoigner que le mari est mort, Dieu préserve. Elles ne peuvent pas non plus... Quand elles ne peuvent pas non plus amener le guet.
On va traduire là.
Oui, ils disent que là ils peuvent amener le guet.
Justement.
Ils peuvent.
Alors, ah, fanashim shena nemanot lomar, on dit comme ça. Ah, fanashim shena nemanot lomar met bala. Même les femmes à qui on ne fait pas confiance pour dire que le mari est mort, les cinq femmes que j'ai citées, les manot, la vie est guita.
On leur fait confiance
pour amener le guet. C'est vrai. On leur fait confiance, pardon. Pourquoi on leur fait confiance pour amener le guet? Alors, c'est qui d'abord ces cinq femmes? C'est Chamota, la belle-mère. Ou Vatramota. Vatramota, donc on a dit, c'est la fille de la belle-mère.
D'accord,
donc ça veut dire la belle-sœur. Non, mais je dis bien la fille de la belle-mère pour dire que le problème, c'est la belle-mère ici. La belle-mère qui a monté la tête à sa fille. C'est pour ça qu'on dit la fille de la belle-mère. La fille de la belle-mère. Vetsarata. Tsarata, ça veut dire une deuxième femme qui est mariée. D'accord? Donc la femme adjointe, si on veut, oui. Vievimta. Yevimta, ça veut dire la femme du frère de son mari. D'accord? Et Uvat Bala, ainsi que la fille de son mari, mais d'une autre femme. C'est-à-dire un mari qui a eu un deuxième mariage, par exemple, et que il a eu une fille du premier mariage, et du coup, cette fille a habité avec cette famille. Le problème qu'on a, c'est qu'en général, cette fille-là et la deuxième femme, elles ne se supportent pas. D'accord? Donc, bien que normalement on ne les croit pas, mais, comme vous avez bien dit, Razak, on leur fait confiance pour amener le guet. Pourquoi? Pourquoi il y a cette différence entre le guet et la mort? Pourquoi quand ils disent que le mari est mort, on leur fait pas confiance, alors que quand elles amènent le guet, on leur fait confiance?
Le guet est une bonne nouvelle.
Donc la Gemara explique, non, très simple, elle pose la question à la Mishnah, ma ben guet le mita, quelle différence il y a entre le guet et la mort? Parce que dans le guet, on a quelque chose de spécial, shaktav mochiach. Puisque l'écriture dans le guet, d'accord, prouve que ce qu'elles disent est vrai. C'est-à-dire même si c'est la belle-mère, et que bon, on aurait pu dire qu'elle aurait pu concocter un plan, mais on considère que puisqu'elle a un papier dans la main, c'est pas un simple témoignage, elle a un papier dans la main, donc Aktav Mochiach, l'écrit qu'il y a dans sa main, le fait qu'elle a un papier, qu'elle a un contrat, le guet, ça prouve que ce qu'elle est en train de dire, c'est pas faux. Bon, vous allez me dire, on peut faire des faux contrats, mais dans ce cas-là, on n'en finit plus. C'est pour ça qu'on lui fait confiance. Aisha Atma, Mevia Et Gita, continue la Mishnah, elle dit, la femme elle-même peut amener son guet. Donc ça, je vous l'avais dit, mais on l'a pas vu dans les mots de la Mishnah. Aisha Atma Mevi'et Gita. La femme elle-même peut amener son guet. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la femme elle-même peut aller chercher son guet et le ramener. Mais attention, Ubilva chez Tzricha Lomar, Befanaï Nertav, ou Befanaï Nertav. D'accord? À condition que la femme doit dire, le guet a été écrit. Le guet a été écrit devant moi. Et le guet a été signé devant moi. Alors, écoutez bien de quoi on parle ici. On parle d'un cas très particulier, la Gemara nous explique. On parle d'un cas très particulier, parle d'un cas que le mari...
Non, il ne doit pas être présent.
Le mari, écoutez bien ce qui s'est passé. Un cas très bizarre. Le mari et la femme sont à Paris. D'accord ? Le mari, il donne un guet à la femme, mais il lui dit, je veux que tu sois divorcé à New York. Il veut l'embêter. Je veux que tu sois divorcé à New York. Mais non, le mari, il est à Paris, il peut divorcer au Bedin de Paris, il veut pas. Je veux que tu sois divorcé à New York. La femme, elle dit, ok, bon, alors viens à New York, ok, je vais à New York. Il dit, non, moi, je vais pas à New York. Par contre, si tu veux, toi, tu peux être le shliar pour amener ton guet à New York. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? La femme, la seule solution qu'elle va avoir, c'est de prendre le guet, de l'amener à New York en tant que shliar, en tant qu'émissaire. Elle arrive à New York, elle va déposer ce guet au Beit Din. Le Beit Din va prendre une autre personne, un autre shliar, d'accord ? Le Beit Din va prendre un autre shliar qui va dire, d'accord, qui va donner le guet à cette femme-là en tant que girushin, en tant que divorce. Vous me suivez ? Ça veut dire le Beit Din va reprendre le guet et il va nommer quelqu'un qui donnera le guet à la femme de la part du mari. Parce qu'il faut quelqu'un qui le donne de la part du mari, c'est ça le problème. Or, cette personne-là ne peut pas être la femme. Elle ne peut pas en même temps le donner, en même temps le recevoir.
Ouais.
Donc la Gemara explique que c'est de ce cas qu'on parle ici. Donc, dans ce cas-là, la femme, elle arrive au Beit Din à New York, qu'est-ce qu'elle dira ? Elle dit, il a été écrit devant moi, il a été signé devant moi, le Beit Din dit, ok, on considère que c'est un bon guet, il prend le guet, il appelle quelqu'un dans la rue, il dit, bon, vous allez donner ce guet à cette femme de la part de son mari. Mais je ne connais pas, c'est pas grave. Nous, on vous dit que son mari, il est d'accord, donc vous allez le donner de la part de son mari. Et il va redonner le guet à la femme de la part du mari.
Et donc la liquidation de la communauté va se faire là-bas dans un autre Beit Din.
Oui.
Et ça coûte une fortune.
Alors, une des raisons pourquoi une personne...
La haine.
Une des raisons pourquoi une personne voudrait divorcer dans une autre ville, c'est peut-être parce qu'il ne fait pas confiance au Beit Din de l'endroit. C'est possible. Il a entendu des choses, il ne fait pas confiance, donc il lui dit, moi je te divorce à New York, pas ici. Bon, donc on a donné une technique. La Gemara explique à part ça que le chidouche, la nouveauté qu'on a ici... Qu'est-ce que nous apprend la Mishnah ? C'est qu'on ne pense pas que la femme a falsifié le guet. Pourquoi ? Parce qu'on part d'un principe qu'un guet falsifié, on finira par monter dessus, on finira par se rendre compte qu'il était falsifié, et on considère que la femme ne va pas être mekalkel et tatma, c'est-à-dire que la femme ne va pas se causer du tort à elle-même, puisqu'elle sait que de toutes les façons, on finira par l'attraper, et que de toutes les façons, si elle a un faux guet, ça veut dire que si elle s'est remariée, eh ben, Dieu préserve, les enfants qu'elle aura par la suite seront mamzer. Donc, on considère qu'une femme ne va pas falsifier son propre guet.
Elle peut falsifier dans l'oseille.
Oui, effectivement. Effectivement. C'est pour ça que dans l'argent,
zéro,
dans l'argent, on fait plus attention, effectivement. Là, on parle pas, là, on a pas parlé, vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé du tout d'argent pour l'instant. On a parlé simplement du fait qu'elle est divorcée. L'argent, on n'a pas encore parlé. L'argent, on parlera plus tard. Donc ça, c'est pour...
Alors, si la femme, elle n'a pas le guet, elle a fait des enfants entre temps, les enfants, ils sont mamzer.
Mamzer, bien sûr. Ah oui.
Ça veut dire quoi, mamzer?
Bâtard.
Mais en d'autres termes,
c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la communauté, ils peuvent pas se marier.
Avec un juif.
Ils peuvent se marier qu'avec un autre mamzer. Ou avec, bon, les catégories, on avait cité dans la Mishnah Kiddushin. Ou peuvent se marier avec un converti aussi. C'est très restreint.
Mais il faut vérifier quand même avant d'annoncer.
C'est dur.
Pareil que le premier mariage était valide.
Oui,
la plupart du temps, on cherche s'il n'était pas valide pour essayer de...
Ouais, bien, on s'y a eu d'autres enfants.
Ma mère n'avait pas fait le guet, et elle a fait le guet peut-être 6 mois avant que ma soeur se marie. Donc, 20 ans après l'histoire.
D'accord, il n'y a pas eu de problème, c'est pas grave ça.
Ouais.
D'accord.
Donc tu peux le faire, pas
non.
Tout de suite.
Ah oui, tu es en train de parler d'autre chose.
On parle d'autre chose, mais. Moi je parle du fait si la femme a vécu avec un autre homme, et qu'ils ont eu des enfants, etc., c'est à jour. Chaque fois qu'elle a des relations avec un homme...
C'est le cas. Ma mère, elle s'est remariée.
Bon, elle ne savait pas. Il faut savoir que même s'il n'a pas d'enfant, chaque fois que cette femme a des relations avec un autre homme, elle fait une avéra. C'est pour ça que c'est très grave. C'est pour ça que...
Elle s'est remariée.
L'homme, pareil, c'est sûr. L'homme, pareil, il a eu des relations avec... Normalement, à l'époque du Matamikdash, ils auraient dû être mis à mort. S'ils étaient prévenus. Bon. Donc, on continue.
Pour la faire, simplement, c'est le mariage du cachet ou pas ?
Voilà. Alors, comme il dit M. Bismuth, ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est que le Beit Din va essayer d'invalider le premier mariage.
Ouais, je comprends pas, Bismuth est quand même.
D'accord. Mais c'est compliqué.
Non, mais
il l'avait déjà dit.
On a déjà fait Bismuth Kohn.
Donc on commence maintenant Perek Shlishi, le troisième chapitre. Perek Shlishi. D'accord. Alors, on a déjà dit dans l'introduction qu'on a fait
c'est la même formule, hein, quand il a dit « par devant moi », il a été signé, c'est exactement
oui, même formule. Mais là, la nouveauté qu'il y a, c'est quoi ? C'est que c'est la femme elle-même qui va amener son guet, qui va être l'émissaire, mais le Beit Din devra prendre le guet,
ouais,
d'accord, et trouver une autre personne pour lui donner de la part du mari.
Mais c'est pas écrit dans ça, c'est pas écrit ce que tu viens de dire.
C'est écrit dans les notes à mon avis.
Ah, dans les notes. Ouais. Mais c'est pas écrit dans la Mishnah.
Non, non, c'est pour ça qu'on a la Gemara. C'est écrit dans les notes. Regarde les notes. Donc on a déjà, donc je commence le Perek Shlishi, le troisième chapitre. On a déjà dit dans l'introduction de la qu'on a fait avant de commencer la Maserhet, on a dit que le get doit être écrit.
Elle est pas considérée.
Le get doit être écrit pour au nom. Au nom, quand je dis au nom, c'est-à-dire avec la kavana en pensant pour l'homme qui est en train de divorcer et pour la femme qui va être divorcée. D'où on sait, parce que c'est écrit dans le Chumash Devarim, c'est écrit Vechatav la. D'accord? Il va écrire le get pour elle. De là, on comprend que l'écriture du get et la signature du get doit être l'ishma, ça veut dire pour la femme. D'accord? Très bien. Donc notre Mishnah va nous apprendre qu'un get qui n'a pas été écrit pour le mari et pour la femme, ça veut dire que par exemple le sofer il a pensé que à la femme, mais il connaissait pas le nom du mari, il n'a pas pensé au mari, ou le contraire, on va expliquer que le get ne sera pas valable. Donc, on commence. Kol get shenirtav.
Kol get?
Chez le, je l'attendais. Kol get shenirtav chez le leshu misha. Tout get qui a été écrit, d'accord, chez le leshum isha, il n'a pas été écrit pour le nom de la femme. Ça veut dire comme ça, c'est par exemple un sofer qui a écrit un get pour montrer à ses élèves comment on écrit un get, par exemple, ou pour s'entraîner. Et après, du coup, il y a quelqu'un qui vient pour divorcer, il dit, bah, tant qu'à faire, on va utiliser ce get. Le get n'a pas été écrit pour cette femme-là.
Donc on ne peut pas faire un get en blanc comme pas on fait soul, pour les...
Pas soul, exactement, pas soul, il est pas soul. C'est pour ça qu'on a un sofer qui est là constamment au bedding. Ketsad, comment c'est possible? Aïe, au verbe chouk, si, dès qu'une personne est en train de passer au marché, vesham a kol sofrin makrin. Et il a entendu, d'accord, la voix d'un sofer, makrin en train de lire. Donc en train de lire à son élève, le texte d'un get. Il est en train de montrer à son élève comment on écrit le get. Et il entend le sofer qui parle à son élève, et qui lui dit, voilà, ish plouni, megaresh et plounit, mimakom plouni. Il dit, Reuven, par exemple, va divorcer Sarah, mais ma compluni de tel endroit. Zéhamar, il a dit, Zéchmi, Zéchmi,
je suis divorcé.
C'est mon nom et le nom de ma femme. Eh ben, ça tombe bien, tiens, allez, bon, le guet, combien vous le vendez? Hein? Et il dit, bah, tiens, je vais récupérer les frais du guet. D'accord, les frais du scribe. Pas sous les garages beaux. D'accord? Pas sous les garages beaux, il est pas soul, d'accord? Il n'y a pas de blague là, monsieur Smith, pas soul. Pas sous les garages beaux. Il n'a pas le droit, les garages beaux, de divorcer avec ce guet-là. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il n'a pas été écrit pour la femme. Yatar Miken, plus que ça. Katav les garages beaux à Tito. Si une personne a écrit un guet, là, on parle même plus d'un élève. Une personne a écrit un guet pour divorcer sa femme. Venimlach, après il change d'avis, dit, bon, tu sais quoi, je vais pas te divorcer. Metzao ben Hiro. Et il retrouve quelqu'un de sa ville. Parce que dans le guet, on écrit le nom du mari, le nom de la femme et le nom de la ville. Et il retrouve quelqu'un de sa ville. Vamarlo, il a dit, tu sais quoi? Shemi keshimcha, mon nom est comme ton nom. Veshemishti keshemishtecha, et le nom de ma femme est comme le nom de ta femme. Qu'est-ce que tu en penses si j'ai entendu que tu voulais divorcer, mais que t'as regretté? Passe-moi le guet. Je me dis comme
pourquoi
ça.
Mais c'est plus cher de faire
faire. Bah, il y a un sofer pour écrire le guet.
Bon.
Et le papier.
Ça coûte. Je vais récupérer 100 euros.
Ça, c'est des probabilités infinies. Ça n'arrive jamais.
Si. Alors, ça peut arriver, monsieur.
Aujourd'hui, ça peut pratiquement plus arriver, puisqu'aujourd'hui, on écrit le nom de famille.
Peut-être dans un petit village.
Il faut savoir, monsieur Benichou, qu'à l'époque, on n'avait pas les noms de famille. D'accord? C'était Reuven ben Aaron. Moshe ben Aaron, Reuven ben Shimon. Il y en a des tas dans le livre.
Il faut qu'il passe devant l'école à ce moment-là.
Très bien. Eh ben, peut-être qu'il vient en Bedin, le Bedin.
Et qu'il ait envie de divorcer, en plus.
Regardez. Ben, c'est beaucoup de mots. Je m'appelle Yehou ben Yosef. Et je suis marié à une Esther.
Ouais.
Bah, on connaît courant. Un autre comme ça.
Oui. Non, il y en a plein. Et vous allez passer devant le scribe le jour où il fait son cours et où il est en train de
dire son acte. Ça s'entend. On entend. D'accord?
C'est publié.
Surtout le deuxième cas, ça. Non,
mais il faut tenir compte de l'esprit, pas forcément.
Oui, c'est l'esprit. Non, mais c'est pas seulement ça. Moi, je trouve que le deuxième cas est beaucoup plus probable. Pas sous les gars Rechbo, donc on ne peut pas divorcer avec, puisque le get n'a pas été écrit, d'accord? Le get n'a pas été écrit pour le mari qui divorce et pour la femme qui divorce. Yater Miken, plus que ça, c'est pas fini. Ayulo Shtenashim. Si une personne avait deux femmes, Ushmoten Shavin qui ont les mêmes noms. Deux femmes, même nom. Katav, les Garejbot Agdola. Il a écrit un get, d'accord, pour divorcer la grande. D'accord?
Sarah la grande.
Sarah la grande. Mais il n'a pas écrit Sarah la grande. Il a écrit Sarah. Très bien. Lo égarash bo takana, et après il change d'avis, il dit bon, tu sais quoi, je vais garder la grande et je vais divorcer la petite. D'accord? C'est des affaires, le gars. Lo égarash bo takana, il ne peut pas divorcer la petite. Alors pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit. On a deux problèmes. Il faut d'abord qu'on a la kavana pour le mari qui divorce, et qu'on ait la kavana pour la femme qui divorce. Dans le troisième cas que j'ai dit, est-ce que le mari a changé? Non. Le mari n'a pas changé, puisque c'est le même mari qui divorce. Mais par contre, ce qui a changé, c'est la femme. Dans les cas d'avant, c'est le mari et la femme qui ont changé. Le guet n'a pas été écrit ni pour ce mari, ni pour cette femme. Dans le troisième cas, pourquoi c'est encore plus fort? Parce que le guet n'a pas été écrit. Le guet avait été écrit dès le départ pour ce mari-là, mais bon, la femme a changé. Le guet n'est pas cachère. D'accord? Donc, lo égarash bo taktana. Il ne peut pas divorcer à taktana la petite. Il y a Tamikan, encore plus que ça. Amar à Lavlar. S'il a dit au Lavlar, donc au Lavlar c'est au scribe. D'accord? Donc, si cet homme-là, qui a deux femmes, avec le même nom, deux femmes qui s'appellent Sarah. Donc, le nom du mari ne changera pas, mais c'est le nom de la femme. S'il lui a dit, Ketov, les eaux chez RC Agarash. Il dit, écoute, écris Sarah. D'accord? Et après, je déciderai laquelle je divorce. Le gars, je me suis pas encore décidé. D'accord? Pasoul les garashbo. Il ne peut pas divorcer. C'est encore plus fort, ça. Il ne peut pas divorcer aucune des deux femmes avec. Pourquoi? Puisqu'au moment où il a écrit le guet, il ne savait pas dans sa tête qu'il allait divorcer. Alors que quand on écrit le guet, il peut penser à une femme distincte. D'accord? Donc, on a amené ces quatre exemples pour nous montrer que vraiment, on est très sérieux. Quand on dit qu'il faut penser au nom du mari et au nom de la femme qui ont écrit le guet, on va jusqu'au bout. Il faut vraiment qu'on pense au nom du mari qui écrit le guet et au nom de la femme. Et même si deux femmes, c'est les deux femmes du même mari et que je dis, je déciderai après, ça marche pas. D'accord? C'est pour ça que dans le guet, on fait très attention que le guet soit écrit pour le mari et pour cette femme. C'est un guet qui est fait sur mesure. D'accord? C'est un premier point. Deuxième point, deuxième Mishnah. Alors, on a déjà expliqué dans l'introduction que...
Oui. Dans le texte de la Mishnah, il y a un beau entre parenthèses. Comment ça se fait qu'on autorise un beau entre parenthèses comme ça?
Un beau, j'ai pas compris.
Un beau. Ici, là, il y a... Ils ont mis beau entre parenthèses. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la Mishnah, et pour comprendre la phrase, on rajoute...
Moi, chez moi, il n'est pas entre parenthèses.
Ah oui, c'est pour ça que je suis étonné.
Chez moi, il n'est pas entre parenthèses.
Elle est où ta parenthèse,
là? Beau, si je te vois, ouais, je vois, il n'est pas en parenthèse.
Ah!
Chez moi, il n'est pas en parenthèse.
Ouais.
Peut-être qu'il y avait deux versions, c'est possible. Hein.
Ouais.
En tout cas, chez moi, il n'est pas en parenthèse. Alors, on a déjà expliqué dans l'introduction de la Mishnah, d'accord, avant de commencer la Masechet Gittin, on a expliqué que dans le guet, il y avait deux parties. Il y avait le toref, ce qu'on appelle le toref, et ce qu'on appelle le tofes. Donc je rappelle rapidement ce que c'est. D'accord. Le toref, c'est quoi? C'est la partie principale du guet, dans laquelle sont écrits le nom du mari, le nom de la femme, et le jour dans lequel on a écrit le guet. Et donc éventuellement, comme j'ai dit, on rajoute aussi la ville dans laquelle le guet a été écrit. Et le tofes, d'accord, c'est quoi le tofes? C'est le reste, c'est le template, d'accord, le modèle du guet qui ne change jamais. Par exemple, le fait, le modèle du guet, les mots qui reviennent toujours dans le guet. Donc on a le toref et le tofes. Le tofes, c'est le modèle.
Mais non, c'est pas possible, ça.
Oui, non, mais on les écrit les deux en même temps. Mais on va expliquer qu'il y a des halakhot différentes par rapport aux erreurs, par exemple, qui pourraient venir. C'est pas la même chose.
Tu peux expliquer l'étymologie des deux mots, toref, toref, tofes?
C'est deux mots qui viennent, c'est de l'araméen.
Ouais.
D'accord? Tofes, en hébreu, ça veut dire un formulaire. D'accord? Et toref, ça veut dire le contenu, j'aurais dit le cœur du guet. D'accord? Donc le formulaire, un formulaire, c'est un formulaire, ça veut dire...
Rien à voir avec taref.
Non,
le
pas du tout.
Ça, voilà,
non, un formulaire, c'est... Bon, c'est un formulaire, c'est-à-dire un formulaire qui est pré-rempli, et après je le remplis.
Voilà.
D'accord? Donc le toref, c'est le cœur du guet. D'accord? Bon, donc le toref et le toref.
La partie personnalisée, quoi.
Voilà, la partie personnalisée et la partie modèle. Bon. Alors, à Kotev, donc on a dit le toref et le tofes. Donc le toref, c'est quoi? Allez, qui se rappelle? Le toref, c'est quoi?
Le
toref, c'est les noms. Et le tofes, même en hébreu moderne aujourd'hui, quand vous allez chercher un formulaire, vous dites tofes. D'accord? Enfin, en hébreu moderne, vous dites encore.
C'est les formulaires pré-remplis.
C'est un formulaire. Un formulaire pré-rempli. Enfin, pré-rempli, non, mais...
Tofes à peau à l'im.
C'est le même texte pour vous, ça?
Oui, tofes.
L'ordonnance.
Alors, à Kotev, Tavse Gitin. Donc, celui qui écrit des formulaires de guet. D'accord? Très bien. Donc, écoutez bien. Là, ce qu'on va expliquer ici maintenant, c'est que, en vérité, a priori, on s'en va développer, l'endroit principal qu'il faut écrire à l'Ishma pour le nom de la femme et le nom du mari, c'est que le côté toref. Ça veut dire quoi que le côté toref? Ça veut dire que le nom du mari, le nom de la femme, d'accord, et la date à laquelle ça a été écrit. Ces trois choses-là, il faut les écrire pour le mari et pour la femme. Mais, D'accord ? Le reste du guet, le langage standard qui revient, a priori, on n'a pas de problème de le faire, de le préparer avant, même si on ne sait pas le nom du mari et le nom de la femme. Donc écoutez bien.
On a dit qu'on ne peut pas le faire si on...
Ah, voilà, c'est pour ça qu'on a la mission suivante. Il dit qu'il va faire la différence entre Toref et Tophet. Il va dire que d'ailleurs, vous avez bien remarqué que dans la Mishnah d'avant, on a parlé à chaque fois d'un problème de nom. À chaque fois, on a dit le nom est le même, etc. Akotev Tafse Gitin. Celui qui écrit Tafse Gitin, donc des formulaires de get. Pour qu'il soit prêt. Pour qu'il soit prêt. Tsarir Sheyaniyar, il faut laisser vide, blanc. Mekom Aish, l'endroit du mari. Ou Mekom Aisha, donc la place dans laquelle on écrira le nom du mari. La place dans laquelle on écrira le nom de la femme. Donc ça revient plusieurs fois dans le guet. Hein. Par exemple, je ne sais pas combien de fois ça revient, mais par exemple dans une ketouva, le nom de la femme revient une fois, et le nom du mari revient cinq fois. Donc à chaque fois on dit, et le nom du mari s'est engagé à, et il s'est engagé. Et chaque fois on rappelle le nom du mari. Donc pour dire, on répète plusieurs fois le nom du... Dans la ketouva, on répète cinq fois le nom du mari. Le guet, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié.
Le sous-signé, je ne sais pas quoi.
Non, c'est en écrit, ça fait partie du contrat. D'accord, c'est pas simplement en bas. Donc Tsarir chez Yaniar, il faut laisser en blanc. Mais comme Aïch, d'accord, l'endroit pour écrire le nom du mari. Mais comme Aïcha, l'endroit pour écrire le nom de la femme. Ou mais comme Azman, et l'endroit où on écrit, mais comme Azman, d'accord. L'endroit où c'est, le Zman, pardon, c'est le temps dans lequel ça a été, donc l'heure, le jour, etc. Alors, la Gemara va expliquer, écoutez bien ce qu'on va expliquer ici. La Gemara va expliquer qu'en vérité, cette Mishnah-là suit l'avis de Rabbi Elazar. Il y a une machloka dans la Gemara. Je vais expliquer tout de suite. Est-ce que aider Messira Karté ou est-ce que aider Khatima Karté? La question se pose comme ça. On sait que pour valider le get et pour que le get soit un bon get, il faut que on a besoin d'avoir deux témoins. Et c'est les deux témoins qui vont créer la séparation entre le mari et la femme. Il y a une marque dans la Gemara. Est-ce que aider Messira Karté ou est-ce que aider Khatima Karté? Est-ce que c'est les témoins Messira de la transmission, ça veut dire est-ce que c'est les témoins qui vont transmettre le guet, qui vont eux créer la séparation entre le mari et la femme? Donc en d'autres termes, peu importe comment le guet aurait été écrit, ce qui compte c'est que les témoins qu'ils transmettent sont des bons témoins. Ou bien est-ce que aider Khatima Karté, ce qui compte c'est les témoins qui ont signé sur le guet. D'accord? Donc je répète, Marloket dans la Gemara, est-ce que aider Khatima Karté ou est-ce que aider Messira Karté? Est-ce que le plus important, c'est les témoins qui signent sur le guet, ou est-ce que le plus important, c'est les témoins qui transmettent le guet? Là, notre Mishnah suit l'avis qui dit que, l'avis de Rabbi Elazar, qui dit que, aider Messira Karté, ça veut dire que le plus important, c'est les témoins qui vont transmettre le guet. C'est pour ça que, même si le formulaire du guet n'a pas été écrit pour le nom de la femme, c'est pas grave. D'accord? Shtar Emekar, continue la Mishnah, et je vais conclure avec ça. Shtar Emekar. Quand on écrit des shtar et mekar, ça veut dire des contrats mekar pour une vente. D'accord? Donc on prépare un contrat pour une vente, un formulaire. Tsarir chez Yaniar, il faut laisser mekom amalvé, l'endroit dans lequel on écrit qui est donc amalvé, qui est le prêteur. Mekom alové, qui est l'emprunteur. Mekom amaot, l'endroit où on écrit la somme. Ou mekom azman, et également l'endroit de où on écrit la date. D'accord? Shtar et mekar. Shtar et milva, voilà. Donc là, on parlait de shtar et milva, c'est-à-dire d'un shtar, tout contrat pour un emprunt. Tout contrat pour emprunt, on doit laisser ces quatre choses-là, qui sont l'emprunteur, donc on doit laisser vide, d'accord? Aujourd'hui, on aurait dû, donc on met un trait en dessous de l'endroit de l'emprunteur, du prêteur, de la somme et de la date. Shtar et mekar, tout ce qui est contrat mekar pour achat. Tsarir chez Aniyar, Mekom Alokéar, donc il faut laisser l'endroit de l'acheteur, Mekom Amocher, l'endroit, donc une place pour écrire l'endroit du vendeur, donc l'acheteur, le vendeur, Mekom Amaot, combien il a payé, Mekom Asadé, également l'endroit dans lequel on dit quel est le bien qui a été acheté, ou Mekom Asman et quelle date. Donc là, combien d'éléments on a ici? 5 éléments. Donc quand on prépare un formulaire, on doit obligatoirement laisser ces 5 éléments vides. Obligatoirement, sinon c'est pas cachère. Mipnea Takana, tout ça pourquoi? Mipnea Takana, alors pourquoi on a permis de faire ça? Parce qu'on a eu un problème, c'est que les sofers, on ne pouvait pas leur demander de faire un get sur place. Donc on a permis que le sofer prépare le get, d'accord, ou prépare des contrats, en laissant ces champs-là vides, ce sera des champs qu'on remplira plus tard. D'accord? Je sais pas si on dit des champs sur un formulaire. On peut dire des champs aussi ou c'est que sur Internet? Bon. D'accord, donc ces champs-là, on va les laisser vides. Donc c'est une takana qui a été faite, comme la Gemara explique, comme la Gemara explique. Rabbi Yehuda possède de Kula. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit dans tous les contrats, c'est pas soul. Il dit, il faut écrire tout le contrat personnalisé pour la personne. D'accord? Alors, bien entendu, vous imaginez que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, sinon on n'en finit plus. Rabbi Elazar marchir bekulan, chout megite nashim, shenema b'chatavla lishma. Rabbi Elazar, d'accord? Rabbi Elazar, il rend cachère dans tous les cas, sauf le guet. C'est-à-dire, Rabbi Elazar dit, il n'y a pas de problème. Tu veux écrire un formulaire et laisser les champs vides, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire partout, sauf pour le guet d'une femme. Pourquoi? Parce que lui, il dit que dans le guet d'une femme, c'est écrit b'chatavla lishma, que même l'écriture doit être pour la femme. Ça, c'est ce que je vous expliquais dans la première Mishnah. Et c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, quelle est la halakha aujourd'hui? La halakha, c'est que, dans la mesure du possible, on écrit tout le guet, donc écriture et signature. On l'écrit pour la femme, donc c'est personnalisé, pas de formulaire. Mais Bediavat, si c'est déjà été fait, on considère qu'on peut suivre l'avis de Rabbi Elazar, qui dit que, si le formulaire était déjà prêt, mais qu'on a écrit le nom du mari, le nom de la femme, et la date, les trois éléments qu'on a demandé, au nom du mari, au nom de la femme, c'est kasher. Mais, ça c'est seulement Bediavat, seulement donc a posteriori, mais normalement, on s'efforce de faire même l'écriture, comme vient de le dire Rabbi Elazar, même l'écriture, on s'efforce de la faire pour le nom du mari et le nom de la femme. Donc pas de formulaire pour le guet. Dans les autres contrats, il n'y a pas de problème.
S'il y a une erreur dans l'écriture des noms, des prénoms...
C'est pas cachère.
C'est pas cachère.
Ouais. C'est pas cachère.
Donc il n'y a pas de formulaire?
Aujourd'hui, on ne fait pas de formulaire.
Ah bon?
Non.
C'est écrit sur place?
C'est écrit sur place.
C'est fait. Alors, pour la personne. Pourquoi on a parlé de Torres?
Attention, c'est écrit sur place, non, pas forcément.
Ça va.
D'accord. Sure. Et je conclue, écrit sur place, pas forcément. Si le sofer, il sait qu'il écrit pour quelqu'un, qu'il écrit pour tel mari et telle femme, même s'ils sont pas là, c'est pas grave. Mais ce qui compte, c'est qu'il doit savoir pour qui il écrit. Pas de formulaire. Pas de formulaire pré-rempli. Ça marche pas. D'accord. Alors, si on l'a fait, Bediavad, c'est kasher, à condition que le nom du mari, le nom de la femme
et la date
ont été écrits pour... ont été écrits pour le mari, en pensant au mari et à la femme, en pensant qui est le mari qui divorce, qui est la femme qui divorce. Mais dans les autres cas, dans un shtar d'emprunt, dans un shtar de vente, etc., on peut faire des formulaires, il n'y a pas de problème. Ça ratifie.